Dharma Sangha jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge par les bienfaits des dons et vertus que je m'éveille pour tous les vivants. Umarum. Nous continuons la voie ouverte, la grande voie du Mahayana, dans l'ouverture du cœur et de l'esprit, bodhicitta, dans une attitude d'ouverture du cœur que l'on nomme la bonté, un bon cœur sensible, bonté qui est compassion, amour, et qui est bodhicitta, le cœur-esprit d'éveil dans l'aspiration qui s'applique pratiquement dans l'exercice des six vertus. Nous sommes arrivés au deuxième chapitre qui se nomme la compassion, Nyingye en tibétain. Nin est cœur et Jé a le sens de noble. Donc la compassion, à proprement parler, littéralement, serait un noble cœur ou un bon cœur, un cœur sensible, un cœur ouvert, réceptif. L'exergue dit, comme la terre et les autres éléments pourvoient immensément et perpétuellement de nombreuses manières aux besoins des êtres, puis-je, de toutes les manières possibles, pourvoir aux besoins des vivants emplissant l'espace, jusqu'à ce que tous aient atteint le nirvana. C'est une parole de Shantideva dans le Bodhicaryavatara. Cette instance exprime la compassion, la bonté dans sa dimension universelle qui pourvoit naturellement, généreusement, de façon illimitée ce qui est bon pour tous les vivants. Et il y a là une image très profonde de la bonté ou de la compassion naturelle, universelle. Kalu Dorje Chan nous dit, la compassion, la bonté et l'amour constituent ensemble l'attitude d'esprit essentielle du Mahayana. Cette attitude d'esprit est aussi bodhicitta, comme nous avons vu. Comprenons que bonté, amour, compassion sont des synonymes en quelque sorte. La bonté est une attitude, une expérience d'empathie, de réceptivité, de bienveillance. Et cette empathie bienveillante peut se comprendre comme un amour, une bonté qui souhaite tout ce qui est bon, heureux et les causes du bonheur. Et aussi une compassion qui participe à la réalité de l'autre dans une écoute profonde, une sensation profonde qui compatit à la peine, à la souffrance des autres et qui en comprend aussi les causes. Leur fondement, le fondement donc de la bonté, amour, compassion, est une disposition d'esprit non égoïste, tournée vers le bien d'autrui, aspirant au bien et au bonheur de tous les vivants, humains et non humains, amis et ennemis. Donc, le fondement de la bonté, amour, compassion se trouve dans une attitude qui n'est pas un état d'être, qui n'est pas égocentré, qui n'est pas celui de l'ego, qui saisit, qui prend, qui ne pense qu'à soi, qui est dans sa bulle, mais dans une attitude d'un cœur-esprit ouvert, une expérience ouverte qui accueille les autres, qui s'accueille soi, qui accueille le monde, dans une ouverture empathique, dans une présence, un état de présence et d'ouverture empathique, comprenant soi et l'autre comme égaux dans une même aspiration au bonheur et à l'éveil, et aspirant à ce qui est bon pour tous, ce qui est bon pour autrui, cette bienveillance, et ce d'une façon générale, universelle, envers tous les humains, proches ou lointains, amis ou ennemis, et aussi les non-humains. Traditionnellement, on distingue trois niveaux de la compassion, trois niveaux de plus en plus profonds. La première dimension, ou le premier niveau de la compassion, est la compassion en référence aux êtres. Puis il y a la compassion en référence à la réalité, et finalement la compassion sans référence. Il se développe progressivement et successivement. Ce que l'on dit ici de la compassion pourrait se dire pareillement de l'amour. La compassion en référence aux êtres naît avec la perception de la souffrance des autres, dans l'empathie, lorsque l'on perçoit la peine, les difficultés, les souffrances des autres. C'est la forme de compassion qui se développe en premier et qui nous fait profondément aspirer à mettre en œuvre tout ce que nous pouvons pour aider tous ceux qui souffrent. Étant en empathie, en sympathie avec la peine et la souffrance, la ressentant, la percevant, l'on aspire naturellement à faire ce que l'on peut pour aider, pour soulager, dans un état d'esprit de bienveillance, de bonté, de compassion, pour aider tous ceux qui souffrent, quelle que soit leur souffrance. Elle naît, cette première forme de compassion, lorsque nous percevons la peine, la souffrance d'autrui. Ne plus être insensible aux souffrances des vivants et aspirer à les aider, à faire tout ce qui est possible pour soulager leurs souffrances, est cette forme de compassion. Ensuite, la compassion en référence à la réalité, le deuxième niveau, apparaît avec l'expérience véritable de la force des illusions, lorsque nous percevons comment les vivants créent leur propre souffrance. Lorsque l'on voit comment tous aspirent au bonheur, mais dans leurs illusions, créent les sources de leur souffrance, les sources de leur malheur, comment englués, illusionnés dans le jeu des projections, leur motivation et leurs actions sont contradictoires, aspirant au bonheur et créant dans leurs faits et gestes des causes de souffrance. Ce paradoxe et cette situation incompréhensible d'illusion est la source d'une compassion encore plus profonde. Elle naît lorsque nous voyons vraiment comment tous aspirent au bonheur et souhaitent éviter la souffrance, et comment, ne connaissant pas les causes du bonheur ni les moyens d'éviter les souffrances, ils produisent les causes de la souffrance et ne savent pas cultiver celles du bonheur. Ils sont aveuglés par leurs illusions et leurs motivations et leurs actions sont en contradiction. Fondée sur la compréhension de la nature illusoire de la réalité, la perception véritable de cette situation engendre cette deuxième forme de compassion, plus intense et plus profonde que la précédente. Cette deuxième forme de compassion entre dans l'intelligence de la réalité, de la perception de la nature de la réalité et de la perception de l'illusion. Et c'est ainsi qu'elle est plus profonde que la première. Puis troisièmement vient la compassion sans référence. Sans référence et sans notion de sujet ni d'objet, et sans intention. C'est l'ultime forme de compassion d'un Bouddha ou d'un grand Bodhisattva. Cette compassion sans référence n'est pas concevable à proprement parler, mais elle est au-delà de la notion de quelqu'un qui compatit, d'un sujet et d'un objet, et de quelqu'un qui est l'objet de la compassion. C'est une, dans l'expérience d'éveil, dans l'expérience de non-dualité, d'empathie ultime, non-dualiste, l'autre est soi n'étant pas différent et au-delà de la dualité, c'est l'action éveillée qui naturellement agit en harmonie et fait ce qui est bon, ce qui aide, qui rayonne naturellement une énergie de bonté. On utilise certaines fois la métaphore du soleil, tout comme naturellement et spontanément le soleil rayonne lumière et chaleur et ainsi éclaire et réchauffe et fait pousser toutes les graines, les plantes, les fleurs et les fruits. Pareillement, cette forme de compassion agit spontanément et accomplit naturellement ce qui est bon pour tous, libre de dualité et libre d'intention, sans que le Bouddha se dise « Ah, tiens, il faudrait que je fasse du bien ou que j'aide un tel ou tel. » Sans conception, sans intention, spontanément. Elle dépend de la réalisation de la vacuité. Il n'y existe plus de référence à moi ou à l'autre. Cette compassion œuvre naturellement, spontanément. Il est important de connaître ces trois types de compassion, d'en comprendre la succession et de commencer à pratiquer au premier niveau, qui est celui qui nous est le plus directement accessible. C'est-à-dire la compassion en référence au vivant. Et là, nous avons des circonstances et des occasions pour le faire continuellement. Le paragraphe suivant traite de tonglen. Littéralement, accueillir, offrir. Offrir, accueillir. La pratique de tonglen est la pratique centrale de ce que l'on nomme Lojong en tibétain, l'entraînement du cœur-esprit. L'entraînement du cœur-esprit, Lojong, est la pratique centrale du Mahayana. Le Mahayana en pratique est Lojong, l'entraînement du cœur et de l'esprit, dans ses différentes dimensions. Mais pratiquement, il y a au centre de Lojong cette pratique de tonglen, accueillir, offrir. L'entraînement est d'accueillir la réalité, d'accueillir l'autre et de s'y offrir, de donner. Accueillir ce que l'on aurait tendance à ne pas accueillir et savoir donner au-delà des résistances qui nous poussent à retenir. Donc, c'est une façon d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son esprit, d'ouvrir la bulle de son ego, son cocon, et d'entrer dans une empathie, d'entrer dans une participation, d'entrer dans l'expérience de la véritable compassion. Nous avons transmigré dans le cycle des existences un nombre incalculable de fois, de naissance en naissance, à tel point que tous les vivants ont été notre père ou notre mère. Le Bouddha a enseigné qu'ils ont été nos parents un nombre de fois indéfini. Dénombrer les grains de sable qui constituent la terre serait encore possible, mais il n'est pas possible de compter combien de fois tous les êtres ont été nos propres parents. Toute la vie depuis ses origines, nous avons été parents, enfants, un nombre indéfini de fois. Tous parents, tous différents et tous ainsi frères et sœurs. Pour cultiver envers tous ces vivants compassion et bonté, nous pensons d'abord à l'amour que nous ont donné nos parents en cette vie, à la façon dont ils nous ont élevés, éduqués, aidés, protégés, et à tout ce qu'ils ont fait pour nous. Même on commence dans la perception de la bonté de nos parents, de notre mère particulièrement, mais de nos parents, et tout ce qu'ils ont fait qui font que l'on est devenu ce que l'on est aujourd'hui, avec même la précieuse existence humaine. Ils nous ont éduqués, élevés, appris le monde, protégés, nourris, entretenus, etc. Donc, il y a de là un sentiment d'appréciation, de gratitude qui naît en nous. Nous imaginons alors combien nous serions touchés si ces personnes qui sont pour nous les plus chères, ou la personne qui nous est la plus chère, peut-être généralement notre mère, mais qui qu'elle soit, était dans un état de souffrance intense devant nous. Donc, cette mère si bonne, donc, sur la gratitude de laquelle sur la bonté de laquelle on a médité et éprouvé de la gratitude, si elle était là en train de souffrir. Nous ne pourrions pas rester insensibles, nous serions touchés et ferions tout de suite quelque chose pour essayer de lui venir en aide et de la secourir. C'est ainsi que nous découvrons notre capacité d'amour et de compassion. Notre faculté à être touché, à être réceptif au-delà de l'indifférence et à souhaiter le bien des autres. On découvre no notre bon cœur en touchant ainsi le point sensible là où nous pouvons être vraiment réceptifs, disponibles et sensibles. Dans cette disposition de bonté, nous accomplissons encore et encore la pratique de tonglen, qui littéralement signifie donner, accepter, offrir, accueillir, qui nous entraîne à donner mentalement à l'autre, aux autres, toutes nos vertus et tous nos bonheurs, tout ce qui est bon, et à accepter en échange toutes ses négativités et ses peines. Donc, en inspirant, nous accueillons ce qu'habituellement nous refuserions, ce qui est difficile. Nous acceptons d'être exposés. Et en expirant, nous donnons tout ce que nous pouvons offrir de bon, de sain, de vertueux pour aider. C'est cet entraînement, accueillir, offrir. Nous pratiquons cela d'abord vis-à-vis de la personne qui nous est la plus proche, la plus chère, telle que nous venons de le voir. Et petit à petit, nous nous entraînons à étendre cette méditation à tous les vivants, jusqu'à y inclure même nos ennemis. Puis, nous considérons que tous les vivants de l'univers, qui ont été depuis des temps sans commencement nos propres parents, et qui ont eu à notre égard cette même bonté, ce même amour, ce même dévouement que notre propre mère, nous les considérons alors avec tous un grand amour, un amour universel, et pratiquons ton laine ainsi dans une bonté ouverte, universelle, envers tous les vivants. Si nous pouvons sincèrement les voir ainsi tous les vivants, comme notre mère, et réaliser qu'ils sont maintenant dans l'océan de souffrance du samsara, alors peut s'éveiller en nous spontanément amour, compassion et le souhait sincère de les aider. Le chapitre continue avec une histoire, celle de Maître Yogi, qui est un des maîtres qui transmet cet entraînement du cœur et de l'esprit, cet entraînement spirituel que l'on nomme Lojong, et qui a eu une vie qui a été l'exemple de la bonté et de l'amour. C'est d'ailleurs son nom, Maître Yogi, Yogi Amour. Il y eut un grand lama Kadampa, Maître Yogi, un des maîtres d'Atisha, Atisha dont nous récitons la formule d'entrée en refuge et de bodhicitta au début des sessions. Donc Maître Yogi qui avait une profonde réalisation de bodhicitta. Alors qu'il était avec ses disciples un jour, donnant un enseignement, on entendit non loin hurler un chien. Puis celui-ci se tut. Au même moment, Maître Yogi poussa un cri de douleur, s'affaissant sur le point de s'évanouir. Tout le monde étonné le questionna. Il montra sur son dos une large ecchymose, puis expliqua qu'on avait lancé une pierre au chien et qu'il avait pris sur lui la souffrance pour l'en libérer. Sa réalisation de bodhicitta était telle qu'il avait la capacité de prendre concrètement sur lui les douleurs d'autrui. La compassion et la bonté, comme le montre cet exemple, permettent d'aider véritablement autrui, de bien des façons. Quand nous pouvons faire quelque chose concrètement pour aider qui que ce soit, nous le faisons simplement. Sinon, lorsque nous nous rendons compte de notre incapacité présente à vraiment aider, nous faisons le souhait de progresser vers l'éveil pour acquérir les qualités qui nous permettront ensuite d'aider vraiment et profondément. Donc, simplement, l'on fait ce que l'on peut, tout ce que l'on peut, selon les circonstances. Et lorsque l'on est incapable, lorsque l'on n'a pas les moyens, la possibilité de vraiment aider, on peut toujours au moins faire un souhait que nous éveillons de plus en plus, nous acquérions les capacités qui nous permettent d'aider de plus en plus largement et profondément. En méditant ainsi encore et encore, nous développons l'aspiration à libérer tous les vivants de leurs souffrances et à les établir en un état de bonheur véritable. Aspiration à libérer tout vivant de ses souffrances et à les tous établir en le bonheur véritable de l'éveil. C'est ainsi que se développe Bodhicitta. La section suivante présente l'amour universel. Je vous ai déjà présenté la proximité de compassion et d'amour, avec une petite orientation différente. L'amour souhaitant plus le bonheur, la compassion, la libération de la souffrance. Mais un moins de souffrance est un plus de bonheur. Le Bouddha Sakyamuni, dans sa connaissance supérieure, a enseigné les six classes de vivants et leurs souffrances spécifiques, les six types de conscience et les souffrances des émotions, des passions qui les caractérisent. Dans les états infernaux sévissent les affres du chaud et du froid. Pour les esprits avides, celles de la faim et de la soif. Dans la condition animale, les souffrances issues de l'opacité mentale et de l'asservissement. Chez les hommes, dominent celles de la naissance, de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Les dieux jaloux souffrent de leurs querelles et tous les dieux de devoir transmigrer et redescendre dans les existences inférieures. Ainsi donc, ces états de conscience et souffrance de six mondes. Tous les êtres vivants dans le samsara méritent notre amour et notre compassion. Tous aspirent au bonheur comme nous, tous souffrent comme nous, et en comprenant qu'ils sont comme nous, en comprenant l'égalité de l'autre et de moi, l'autre est un autre moi-même, il est comme moi, je suis comme lui, l'on peut comprendre qu'ils souffrent comme nous, qu'ils méritent aussi ainsi notre attention, notre amour, notre bonté. Une bonne compréhension étend le rayonnement de l'amour et de la compassion à tous les vivants, sans distinction. Alors qu'une compréhension partielle le limiterait à ceux que touche la misère. En effet, nous éprouvons facilement de la compassion pour un pauvre ou quelqu'un qui est dans une situation particulièrement délicate ou douloureuse, mais pensons que les riches, les puissants, les personnes apparemment heureuses n'ont pas à être objet de compassion. Habituellement, c'est ce que nous imaginons. Une juste compassion, pourtant, se dirige vers tous les vivants, sans oublier les riches et les puissants. Ils ont été, comme tous les êtres, nos mères et nos pères lors de vie passée, et chacun a ses peines. Leur situation présente, leur richesse ou leur puissance résulte d'un karma positif antérieur, mais ils n'en sont pas moins marqués par un fort sens de l'ego et par de nombreuses passions et les souffrances qui en procèdent. Il fut dit par le Bouddha Sakyamuni, la cupidité est la compagne des richesses. Les actes négatifs sont les compagnons des puissants. Cette cupidité et ces actes négatifs les conduisent dans les mondes inférieurs et dans les souffrances qu'ils impliquent. Aussi, ces personnes doivent-elles être des objets privilégiés de notre compassion. Donc, tous les vivants, sans oublier ceux que l'on aurait peut-être tendance à ne pas considérer devoir être les objets de notre compassion et de notre amour. Dans un premier temps, nous apprenons par la méditation à sentir et à développer ce désir d'aider, cet état de compassion envers un être pour qui nous est proche, que nous aimons, comme nous avons vu, Puis nous élargissons cette attitude de bonté à d'autres, de proche en proche, tous ceux que nous rencontrons dans notre vie quotidienne, puis à tout humain et aussi aux non-humains. Et nous allons jusqu'à la limite développer cette bonté, cette compassion envers ceux vers lesquels c'est le plus difficile, nos ennemis et ceux qui nous haïssent, envers tous, sans aucune exception. Le chapitre se conclut avec une histoire célèbre qui est celle de la rencontre d'Asanga et de Maitreya. Asanga, qui est l'un des deux principaux maîtres du Mahayana, et Maitreya, qui est le Bouddha de l'avenir, et particulièrement le Bouddha de l'amour. Asanga était en retraite, accomplissant les pratiques du Bouddha Maitreya, mais après 6 années d'intense méditation, il n'avait toujours pas obtenu le moindre signe de succès. Aussi découragé, abandonna-t-il sa retraite et sortit. En route, il rencontra un homme qui frottait une barre de fer avec un chiffon. « Que fais-tu ? » lui demanda-t-il. « Je frotte cette barre pour l'affiner car j'ai besoin d'une aiguille. » Stupéfait par l'effort et la persévérance de cet homme, il pensa « Tant d'énergie pour une chose de si peu d'importance. Comment moi puis-je en manquer pour continuer la pratique la plus essentielle ?» Il retourna alors en retraite et médita de nouveau sur Maitreya pendant 3 ans, mais toujours sans aucun succès. À nouveau découragé, il quitta sa retraite et sur son chemin rencontra cette fois un homme qui frottait un énorme rocher avec une grande plume. « Que fais-tu ? » « Ce rocher fait de l'ombre sur ma maison. Aussi, je le frotte pour l'user et le faire disparaître. » De nouveau, il se dit « Comment peut-on dépenser tant d'énergie pour un objectif aussi absurde ?» Et il pensa qu'il lui fallait, lui, qui pratiquait vers l'éveil, en avoir bien plus. Il reprit donc sa retraite. 3 ans plus tard, toujours par le moindre signe de succès dans la pratique. Alors, complètement découragé, il sortit. Chemin faisant, il rencontra une vieille chienne infirme au corps couvert de plaies suppurantes, infectée par des vers dont elle essayait désespérément de se séparer. Pris d'une profonde compassion pour cette vieille chienne, il voulut l'aider, mais se rendit vite compte qu'en enlevant les vers avec ses doigts, il les écrasait. Éprouvant également une grande compassion pour ces vers, et pensant pouvoir, sans leur faire de mal, les enlever avec sa langue, il surmonta sa répugnance, ferma les yeux et se pencha pour lécher. Mais au lieu de rencontrer les plaies, sa langue toucha le sol. Il ouvrit les yeux et dans un halo de lumière, il vit devant lui le Bouddha Maitreya. Stupéfait, Asanga dit « Voilà 12 ans que je médite sur vous et espère vous rencontrer. Pourquoi ne m'apparaissez-vous qu'aujourd'hui ?» Maitreya lui expliqua qu'il avait été à ses côtés depuis le début, mais que ses nombreux voiles l'avaient jusqu'à maintenant empêché de le voir, et que ce n'était qu'aujourd'hui, dans la grande compassion qu'il venait d'éprouver pour la vieille chienne, que ses derniers voiles s'étaient épuisés. Il ajouta, Si tu as des doutes, prends-moi sur ton épaule et allons au village. » Asanga prit Maitreya sur son épaule et, rencontrant des villageois, il leur demanda tout content: « Voyez-vous qui est sur mon épaule? » Et personne ne voyait rien. Il n'y eut qu'une vieille femme, dont le karma était particulièrement bon, et qui vit une vieille chienne infirme avec des plaies suppurantes. Asanga devint un grand maître du Mahayana et Maitreya lui transmit le cycle d'enseignement connu comme les cinq enseignements de Maitreya. Un moment de méditation, contemplation et de respiration accueillant. Toute vertu ainsi pratiquée est sans aucune appropriation dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue.